La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin encore, la menace est partout.
Oui, en Indonésie tout d'abord, où le bandeau Breaking News avait à peine disparu hier soir de l'édition en ligne du Jakarta Post après une série d'attaques suicides qu'il a réapparu tôt ce matin pour prévenir d'un nouvel attentat perpétré contre une base de la police et qui aurait fait au moins une victime. La terreur frappe à nouveau. Le titre de l'édito en une du journal ce matin n'était évidemment pas censé devoir résonner de manière aussi brûlante. Ce lundi, le pays tout entier portait encore le deuil des trois attentats perpétrés la veille contre des églises et dont le dernier bilan faisant état de 13 morts et une quarantaine de blessés est d'ores et déjà l'un des plus lourds dans l'archipel depuis 10 ans. Selon la BBC, cette série d'attaques revendiquées par le groupe État islamique impliquerait une seule et même famille, un père, une mère et leurs quatre enfants, dont deux fillettes âgées de 9 et 12 ans. Quant au Jakarta Post, il précise à nouveau que toutes ces attaques interviennent à quelques jours seulement du début du Ramadan dans le plus grand pays musulman du monde, lequel, après avoir été salué ces dernières années pour avoir lancé une offensive majeure contre les extrémistes, assiste depuis peu à une résurgence du radicalisme inspiré par le groupe État islamique.
Et cette série d'attentats, Thomas, fait évidemment écho ce matin à l'attaque au couteau perpétrée samedi soir à Paris et revendiquée là aussi par Daesh.
Il était près de 21h, la nuit allait tomber, il faisait bon et les rues du quartier étaient remplies de gens sortis pour la soirée lorsqu'un homme en noir, couteau à la main, âgé d'une vingtaine d'années seulement, a semé la terreur, tuant un homme, raconte The Telegraph. Encore un fanatique lance de son côté le quotidien de Madrid ABC, pour qui cette attaque est de nouveau l'œuvre d'un fou. L'organisation État islamique a, elle, rapidement revendiqué cette atrocité dans un communiqué qui décrit le coupable comme l'un de ses soldats, une formulation qui n'est pas anodine, note pour sa part The New York Times, car elle suggère que l'attaquant a été inspiré à distance par Daesh, mais n'a pas été envoyé directement par l'organisation. Alors l'assaillant d'origine tchétchène, naturalisé français, sans antécédent judiciaire, figurait en revanche depuis 2016 sur le fichier S des services de renseignement français. Le journal Le Temps précise ce matin que la France compte aujourd'hui environ 18 000 individus fichés S pour leur radicalisation. Et sur ces 18 000 personnes, 4 000 en réalité sont suivies de près par les forces de l'ordre, dont les moyens sont malheureusement insuffisants face à un tel nombre. En d'autres termes, conclut le journal, la plaie djihadiste française va continuer de faire souffrir le pays et elle sera longue à cicatriser.
Et quand il est encore question de Daesh ce matin, ce week-end, les Irakiens étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau parlement et remettre sur pied un pays en lambeaux après 3 années de guerre contre l'État islamique.
Oui, sauf que les électeurs ont visiblement choisi de porter un coup à l'ensemble de la classe politique, note ce matin à The Wall Street Journal, non seulement en boudant massivement les urnes, la participation est inférieure à 45%, mais aussi en plaçant en tête de ces législatives deux listes anti-système qui ont largement distancé le Premier ministre, soutenu par la communauté internationale et pourtant donné favori après dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote. C'est l'imam chiite modéré Moqtada al-Sadr qui arriverait en tête, suivi d'une autre liste du chef d'une milice chiite soutenue, lui, par Téhéran, preuve écrite toujours le quotidien américain, que les observateurs avaient raison de considérer ce scrutin comme un test de l'influence de l'Iran contre celle des États-Unis.
Et puis direction Israël à présent, Thomas, qui s'apprête à connaître 3 jours de très haute tension.
Oui, c'est aujourd'hui que les principales autorités de l'État hébreu vont célébrer le déménagement de l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte. Alors évidemment, ce matin, il y a ceux qui fulminent, mais aussi ceux qui jubilent. C'est le cas en particulier, raconte la correspondante du Temps à Jérusalem, des évangéliques américains sionistes qui croient que la décision de leur président Donald Trump va hâter la rédemption du monde. Et pourquoi ? Pour le comprendre, dit-elle, il faut découvrir leur lecture littérale de la Bible, selon laquelle les Juifs étant le peuple élu de Dieu, ce n'est qu'en les soutenant dans leur volonté de régner sur l'Israël biblique que l'on peut plaire au Tout-Puissant, une manière donc toujours selon eux de s'attirer en retour de fructueuses bénédictions du ciel. Reste que dès demain, des dizaines de milliers de Palestiniens manifesteront eux leur colère à l'occasion des 70 ans de leur expulsion au moment de la création de l'État hébreu, de sorte conclut le journal qu'ajouté à la guerre qui se profile déjà avec l'Iran, nul doute que ce mois de mai en Israël pourrait rester tristement gravé dans les mémoires. Et de fait, en déplaçant donc l'ambassade des États-Unis, mais aussi en jetant aux oubliettes l'accord sur le nucléaire nucléaire iranien, Donald Trump risque non seulement de précipiter la recomposition des camps dans la région, mais aussi surtout de faire planer le spectre d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. C'est en tous les cas l'inquiétude partagée par le magazine Der Spiegel, dont la dernière une choc montre une main à l'effigie de Donald Trump avec le majeur bien tendu. Et puis autre couverture, elle aussi remarquée notamment par le Courrier international, celle de l'hebdomadaire Time, avec cette question: les hommes coupables peuvent-ils changer? Alors la question est ici liée au mouvement MeToo. Le magazine américain consacre un grand article au traitement suivi par des hommes derrière les barreaux pour des infractions à caractère sexuel. La journaliste y raconte notamment 3 jours de thérapie avec 16 hommes condamné. Et puis, sans transition, comme on dit, en Italie, on a appris ce week-end que Silvio Berlusconi, condamné en 2013 à une peine d'inéligibilité pour fraude fiscale, pourra à nouveau se présenter à des élections. Un tribunal de Milan a décidé en effet de réhabiliter l'ex-cavaliere en effaçant tous les effets de sa condamnation, précise Il Corriere. Et ce, 2 jours seulement après que le magnat des médias a accepté de donner son feu vert à un accord entre son allié, la Ligue d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles. Les deux partis anti-système ont trouvé un accord sur un programme de gouvernement et devrait annoncer aujourd'hui le nom du Premier ministre. Ce matin, nombre de journaux, à l'instar d'El Gazzettino, dressent ainsi la liste des premiers ministrables.